France Inter.
Il est 13h sur Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Très violent séisme en Asie du Sud-Est tôt ce matin. La Birmanie est le pays le plus touché, des bâtiments à terre, au moins 20 morts, des centaines de blessés. Tremblement de terre d'une intensité exceptionnelle, nous disent les spécialistes. En Thaïlande, une tour en construction s'est effondrée. Témoignages et les dernières informations dans un instant. Les bras des adolescents pour compenser ceux des migrants. La solution séduit aux États-Unis où plusieurs États réfléchissent à faciliter le travail des mineurs. Nous verrons cela. À suivre encore la France qui se décarbone moins vite que prévu. Bonjour Célia Kiré.
Bonjour Jérôme.
Les derniers chiffres sont mauvais.
Oui, les émissions de CO2 en France n'ont diminué que de 1,8% en 2024. C'est trois fois moins qu'en 2023, la décarbonation étant légère panne.
A tout de suite, un nouveau bras droit à l'Elysée pour Emmanuel Macron. Il s'appelle Emmanuel Moulin, un proche de Bruno Le Maire qui affectionne les imitations d'hommes politiques. Son portrait à suivre. Nous verrons qu'une vingtaine d'évêques de France ont commis des manquements dans le passé dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. À partir de 13h30, la médiatrice de Radio France avec nous et des questions sur le réarmement de la France et son traitement à l'antenne. 13h50, c'est la France, les supporters du FC Nantes dans le viseur du ministère de l'Intérieur, mais ils sont soutenus par tous les élus locaux nantais. Récit de Jean-Baptiste René du journal L'Équipe. Juste avant 14h, c'est une chanson, la créatrice de mode Fifi Chachnil, Michel Legrand et Frédéric Pommier. Et puis nous parlerons également comédie musicale à la française avec Julien Baldacchino, notre confrère qui propose un documentaire spécial et exceptionnel ce soir sur France 3. Et puis dans une vingtaine de minutes, l'histoire de ces mamies du Périgord qui vont disputer leur Coupe du Monde de foot.
Quand j'ai commencé il y a un an et demi, j'en voyais pas les patates comme ça, hélas. Au bout d'un an et demi, ça fait plaisir de voir qu'on a un peu plus de force.
L'entraînement, ça paye. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est l'un des pays les plus fermés au monde, la Birmanie, en Asie du Sud-Est, entre la Thaïlande et la Chine. Les militaires y ont pris le pouvoir depuis 2021. Mais ce matin, la junte appelle à l'aide internationale, après un puissant séisme, ce qui donne donc une idée de l'étendue des dégâts. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Vous allez nous donner les dernières informations dans un instant. L'épicentre du tremblement de terre se situe dans le centre de la Birmanie. Magnitude 7,7. C'était donc un séisme violent et surtout peu profond. Parmi les villes les plus touchées, celle de Mandalay. Écoutez le témoignage de Zarni, c'est un habitant du centre de cette ville.
Actuellement à Mandalay, la plupart des bâtiments sont tombés en ruine. L'électricité sera coupée pour un long moment. Il y a des personnes dans les décombres et les pompiers commencent à arriver, mais ils ne savent pas par où commencer, tout comme les secours. Il y a tellement de dégâts.
Zarni, habitant de Mandalay, joint par Erwan Chassin. Isabelle Labéry, que sait-on des dégâts dans ce pays, en Birmanie?
Alors pour l'instant, on ne peut pas dresser de bilan précis de cette catastrophe parce que des ponts, des routes, des temples aussi se sont effondrés. Le trafic aérien est interrompu à l'aéroport de la capitale, Naypyidaw. Une tour de contrôle est à terre, les pistes sont fissurées. Le chef de la junte s'est rendu ce matin dans un hôpital où des blessés en sang et couverts de poussière continuent d'affluer. Ils sont d'ailleurs soignés à l'extérieur du bâtiment des urgences qui ne tient plus debout. Le sol en fait a vibré pendant 30 longues secondes avant de se stabiliser.
On a aussi, Isabelle, des témoignages qui nous parviennent de pays voisins comme la Thaïlande.
Oui, le pays est en état d'urgence et là aussi on a vu des scènes de panique, notamment à Bangkok, mégalopole de 20 millions d'habitants qui pourtant est à 250 km de l'épicentre du séisme. La France a fait évacuer tous ses locaux, ambassades, consulats et lycées. Estelle Boite est une expatriée française à Bangkok.
Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a un immeuble en construction du côté de Chatuchak qui s'est effondré. On sait qu'il y a des ouvriers qui étaient en train de travailler sur cet ouvrage. Et moi, de ma fenêtre à la maison, je vois trois tours qui étaient reliées par des passerelles et les passerelles ont lâché.
Et la terreur des habitants, c'était aussi de revivre le tsunami de 2004.
Les gens avaient peur du tsunami jusqu'à ce qu'on dise ça vient de Birmanie. Et donc là, voilà, il y a eu une descente un petit peu de panique parce que on savait que le tsunami n'allait pas suivre.
Et selon les sismologues, ce séisme est parmi les plus importants séismes continentaux jamais enregistrés.
Parmi les pays qui sont prêts, se disent prêts à fournir de l'aide, les pays de l'Union européenne, par la voix de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui parle de scènes déchirantes dans la région. De son côté, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en déplacement en Chine à Shanghai, indique qu'il n'y a pas de victimes françaises à ce stade. Merci Isabelle Labéry. Les États-Unis poursuivent de leur côté l'expulsion de migrants d'Amérique du Sud. Expulsion en avion, un nouveau vol atterrit ce matin au Venezuela. 178 migrants à bord. Les deux pays ont conclu en janvier dernier un accord d'expulsion. Dans ce contexte de renvoi de la main-d'œuvre étrangère, plusieurs États américains se demandent s'il ne serait pas opportun de faciliter le travail des enfants, en tout cas des adolescents. Ainsi, en Floride, des sénateurs ont introduit cette semaine au Parlement local une loi pour assouplir la réglementation. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de mineurs travaillent déjà dans cet État, mais ils pourraient être beaucoup plus nombreux à l'avenir, Loïc Piala.
La loi n'est qu'en discussion pour l'instant, mais si elle se présente un jour sur le bureau de Ron DeSantis, le gouverneur républicain de Floride, il la signera probablement. Il n'y aurait que 77 candidats pour 100 offres d'emploi dans l'État.
Qu'est-ce qu'il y a de mal à attendre que nos jeunes travaillent à mi-temps? Ça se passait comme ça quand j'étais gamin. Pourquoi il faudrait importer des étrangers, parfois illégalement, alors qu'avant, des adolescents faisaient ces petits boulots?
Le texte autoriserait les employeurs à faire travailler des adolescents de 16 et 17 ans entre 23h et 6h30 du matin, les jours d'école. Leur emploi pourrait occuper les élèves jusqu'à 30 heures par semaine, en plus de leurs cours, et les pauses repas ne seraient plus obligatoires. Les mêmes conditions s'appliqueraient aux mineurs de 14 ans, s'ils suivent des cours à domicile. Pour les partisans de la loi, le choix appartient aux parents. Ces critiques craignent l'impact sur le parcours scolaire et la santé des enfants. Interviewé par la chaîne CBS, ce manager d'une ferme près de Miami, dénonce le texte.
Cette loi est faite pour que les riches profitent des pauvres. On nous a promis des expulsions massives et maintenant, la classe dirigeante se demande « Oh, comment on fait pour remplacer notre main-d'œuvre bon marché ?»
L'assouplissement des lois sur le travail des mineurs ne fait pas débat qu'en Floride. Une quinzaine d'États se penchent sur la question.
Loïc Piala aux États-Unis pour Inter. En Turquie, l'un des deux grands syndicats du pays appelle à cesser le travail à la mi-journée pour contester l'incarcération du principal opposant au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan. Il s'agit du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Les autorités turques ont procédé ces dernières heures à des centaines d'arrestations, dont celle de l'avocat d'İmamoğlu. Israël a bombardé ce matin la banlieue sud de Beyrouth. C'est une première depuis 4 mois, depuis le début de la trêve avec le Hezbollah. C'est une réponse, dit le pouvoir israélien, à des tirs de roquettes dirigés depuis le Liban vers le territoire d'Israël. La France est mal partie pour tenir ses objectifs en matière de décarbonation, c'est-à-dire émettre moins de CO2 pour limiter le réchauffement climatique. En 2023, la baisse des émissions dans notre pays avait été de 5,8%, mais elle n'a été que d'1,8% l'an dernier, sont pointés du doigt notamment les transports, les logements et la construction de bureaux. Célia Kiré, on vous retrouve. La décarbonation s'essouffle chez nous, mais c'est aussi le cas chez nos voisins européens.
Oui, en Europe, les efforts sont réels, mais encore insuffisants. Moins 3% d'émissions de gaz à effet de serre en Allemagne en 2024, moins 4% au Royaume-Uni. Selon des chiffres d'hier, c'est pas mal, mais il faut au moins 5% de baisse chaque année d'ici 2030 dans l'Union pour respecter l'accord de Paris. Aux États-Unis, les émissions stagnent, pas terrible, et en Chine, c'est pire, elles continuent d'augmenter.
Qu'en dit le gouvernement français ou la présidence, puisque c'est Emmanuel Macron lui-même qui a pris des engagements?
Oui, Emmanuel Macron convoque justement un conseil de planification écologique lundi pour taper du poing sur la table. Le dernier remonte à septembre 2023. L'Élysée nous l'a confirmé ce matin, le président va remobiliser le gouvernement sur le sujet de la transition écologique. La France est à la traîne, vous le disiez, dans deux secteurs en particulier, le logement et les transports. Sur la route, la décarbonation est même à l'arrêt. Les ventes de voitures électriques ont baissé de 3% en 2024. La France voulait pourtant être un modèle de sortie des énergies fossiles. 80% des émissions viennent des fossiles. L'Élysée mise sur le nucléaire, les industries vertes, mais pour le moment, ça ne suffit pas totalement. Des arbitrages nouveaux sont possibles lundi à l'issue de ce conseil de planification.
Célia Kiré.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Il n'y a pas que Nicolas Sarkozy qui tire à boulets rouges sur le parquet national financier après le réquisitoire d'hier dans le procès du présumé financement libyen de sa campagne de 2007. Le RN lui apporte son soutien ces dernières heures par les voix de Sébastien Chenu et Jordan Bardella. Le Rassemblement national qui attend lui la décision de la justice dans le procès des assistants d'eurodéputés. Le parti soupçonné d'avoir détourné des fonds européens. Le jugement sera rendu lundi. Et l'une des questions est de savoir si Marine Le Pen sera lundi déclarée inéligible et si oui, immédiatement ou pas, ce qui l'empêcherait d'être candidate en 2027. Alors un tribunal peut-il rendre quelqu'un inéligible, même s'il fait appel? Eh bien ce matin, le Conseil constitutionnel a rendu une décision sur ce point. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Que dit précisément cette décision?
Eh bien, cette décision répond à la question qui lui était posée, à savoir s'il est constitutionnel de contraindre un élu local, en l'occurrence un conseiller municipal mahorais, à la démission après une condamnation d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire applicable immédiatement, même en cas d'appel. Et ce matin, les sages ont donc répondu oui, avec deux arguments principaux. Celui pour les élus d'une exigence de probité, d'exemplarité, peut-on lire dans la décision, et de confiance des électeurs dans leurs représentants. Et puis, argument plus juridique, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il existe de toute façon des voies de recours devant le tribunal administratif. Donc oui, l'application directe d'une peine d'inéligibilité en cas d'appel est bien conforme à la Constitution.
Quoi qu'il arrive, Charlotte, le tribunal fera ce qu'il veut lundi dans l'affaire qui concerne Marine Le Pen.
Oui, tout à fait. À commencer par le fait que les juges délibèrent depuis 4 mois et ne sont donc pas tenus de prendre en compte cette décision qui, on vient de le dire, répond de toute façon au cas d'un élu local. Mais, dans sa décision, le Conseil constitutionnel envoie tout de même un petit signal en rappelant aux juges la nécessité d'un caractère proportionné dans leur jugement au nom de la préservation de la liberté de l'électeur. Certains constitutionnalistes interprètent donc ce rappel des sages comme une incitation des juges à la prudence, y compris pour les mandats nationaux, voire même une invitation des avocats par exemple, à le saisir, pourquoi pas via une question prioritaire de constitutionnalité, Marine Le Pen, de cette question des élus nationaux. En cas de condamnation lundi, la chef de file du RN pourrait par exemple déposer une QPC en même temps qu'un appel de son jugement.
Décryptage signé Charlotte Piret. Il s'appelle Emmanuel Moulin. Son nom ne vous dit sans doute rien. Si vous le croisez dans la rue, vous ne le reconnaîtrez pas. Mais il va devenir l'un des hommes les plus puissants de l'État, nommé secrétaire général de l'Élysée, en remplacement d'Alexis Kohler, qui occupait le poste depuis 2017 et part à la Société Générale. Alors c'est en fait le bras droit au quotidien du président de la République dont on parle. Bonjour Julien Nenni.
Bonjour.
Compte tenu de l'étendue de son influence à venir, on a envie de savoir qui est Emmanuel Moulin.
Un des meilleurs hauts fonctionnaires du pays, un bourreau de travail exceptionnel, bref, quasi impossible de récolter ce matin un commentaire moins hagiographique sur le futur secrétaire général de l'Élysée. C'est peut-être parce que pour beaucoup en Macronie, le choix d'Emmanuel Moulin relève de l'évidence et avait d'ailleurs été acté à l'Élysée depuis des semaines. À 56 ans, Emmanuel Moulin ne partage pas que les initiales du président, il en épouse aussi le parcours énarque passé par le secteur bancaire et par Bercy aussi, où il a dirigé pendant longtemps le cabinet de Bruno Le Maire avant d'épauler un autre macroniste pur jus, Gabriel Attal, pendant son bail à Matignon. Mais ce Versaillais embrasse aussi le « en même temps » de son futur patron. Si Emmanuel Moulin a conseillé notamment Nicolas Sarkozy à l'Élysée, c'est à gauche qu'il s'est formé chez les jeunes rocardiens, où il rencontre un certain Alexis Kohler. Tiens, au début des années 90, Kohler-Moulin, deux purs technos à la personnalité pourtant très différente, beaucoup plus jovial et bon vivant que le très pince sans rire Alexis Kohler. Emmanuel Moulin est aussi, nous dit-on, un excellent imitateur de François Mitterrand ou Valéry Giscard d'Estaing.
Mais ce n'est pas pour ça qu'il a été recruté, on
non,
le rappelle.
A priori.
Quelles seront ses prérogatives précisément à ce poste?
Alors, le secrétaire général de l'Élysée, c'est le maire du palais, compare un proche du président, référence à ses maires qui étaient les plus hauts dignitaires du royaume chez les mérovingiens. C'est dire le prestige du poste, sorte de deuxième cerveau du chef de l'État. Pas un dossier, un arbitrage, une nomination n'échappe au secrétaire général. Même si depuis la dissolution, son influence s'est autant rétrécie que celle du président, Emmanuel Moulin va se concentrer sur ce qui occupe Emmanuel Macron depuis des mois, l'effort de guerre, l'Ukraine, les droits de douane avec les États-Unis, mais aussi les futures crises qui ne manqueront pas d'émailler la fin du quinquennat.
Julien Nenni, la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans requise ce matin à Bordeaux contre l'ex-mari de Shaïnès Daoud. Cette femme brûlée vive en 2021 à Mérignac en Gironde, Mounir Bouta, est jugée pour assassinat, verdict attendu dans la journée. La conférence des évêques de France organise lundi et mardi prochain à Lourdes un point d'étape sur les mesures qu'elle a mis en œuvre après les révélations d'abus sexuels ces dernières décennies dans l'Église. Les évêques veulent montrer qu'ils agissent. Mais sont-ils eux-mêmes irréprochable. Bonjour Delphine Evenoux.
Bonjour.
Vous avez mené l'enquête et découvert que 18 d'entre eux, sur la centaine d'évêques en poste actuellement, 18 ont commis des manquements et il y a un cas qui suscite davantage d'interrogations que les autres, c'est celui de l'évêque d'Autun en Bourgogne.
Oui, il nous faut éviter que cela ne se reproduise, disait Benoît Rivière au moment de la remise du rapport de la commission sur les abus sexuels dans l'Église en 2021. Or, selon nos informations, au moins 3 prêtres au comportement répréhensible ont été signalés ces dernières années à l'évêque d'Autun sans que le diocèse n'agisse. Deux d'entre eux sont morts sans avoir été inquiétés. Pour un troisième, Benoît Rivière avait conseillé aux parents de prendre leur distance avec le prêtre et c'est tout. Ulcérés, des paroissiens sont allés signaler les faits. C'est le cas de Rémi dont nous avons modifié la voix.
Rien ne se passe. C'est ça qui est terrible. L'évêque n'a jamais, à ma connaissance, fait une démarche auprès de la justice. Alors que s'il avait connaissance, et c'était le cas, de méfaits commis par des personnes sous sa responsabilité, il avait à intervenir auprès de la justice.
Et Benoît Rivière nous explique que le prêtre en question est visé par des mesures conservatoires depuis août 2024, soit 3 ans après que la justice a été saisie du dossier. L'évêque a également été interpellé par des victimes de la communauté Saint-Jean qui dépend du diocèse d'Autun. Julien, par exemple, 20 ans de combat pour faire renvoyer le frère qui l'a violé. Il n'a jamais réussi à rencontrer Benoît Rivière, qui a préféré annuler la veille le rendez-vous fixé pour évoquer la reconnaissance de son statut de victime, parce que Julien voulait venir avec son avocate.
Merci Delphine Evenoux. Votre enquête est à retrouver en intégralité sur franceinter.fr, tout comme notre 13-14 spécial d'hier en direct de Pau et consacré au MeToo scolaire dans ces établissements privés catholiques. Une enseignante de sport, une enseignante d'EPS d'un collège de Fontenay-aux-Roses dans les Hauts-de-Seine, agressée mardi par d'anciens élèves. Nous ne sommes plus en mesure d'assurer pleinement la sécurité de nos élèves. Voilà ce qu'expliquent depuis les personnels enseignants de cet établissement. Ils ont signé une tribune. L'agression s'est déroulée à l'extérieur du collège, mais alors que la professeure était en charge de sa classe, le rectorat a signalé les faits au parquet. L'ex-défenseur du FC Barcelone, le Brésilien Dani Alves, a vu sa condamnation pour viol annulée par la justice espagnole. C'est une jeune femme qu'il accusait de viol dans une discothèque. La cour estime que son procès a été marqué par une série de manquements, d'imprécisions, d'incohérences et de contradictions sur les faits. Fin de citation. À Carpentras, département du Vaucluse, qui préoccupe, c'est la délinquance des mineurs. Préoccupation pour le maire de la commune qui vient de prendre un arrêté pour mettre en place un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés d'un majeur. Le couvre-feu va entrer en vigueur mardi. Il durera jusqu'au 1er octobre. Romain Bercher, ce sont surtout les moins de 13 ans qui sont visés.
Ce couvre-feu est même étendu aux moins de 16 ans pour les quartiers du Pou-du-Plan et celui du Bois de Lubac. Les mineurs pourront tout de même sortir de chez eux à une seule condition, être accompagnés d'une personne majeure. Sinon, les policiers seront autorisés à les ramener chez eux. La mesure doit permettre, d'après la mairie, de lutter contre les actes de délinquance. Ceux commis par les mineurs sont en augmentation. Le couvre-feu est aussi un moyen de lutter contre le narcotrafic. Les mineurs, on le sait, sont souvent les petites mains des réseaux. Reste à savoir comment les policiers municipaux et nationaux vont effectuer ces contrôles. L'inquiétude est grande dans les rangs du syndicat Unité. Bruno Bartosetti en est le délégué régional.
Maintenant, l'application, ça va être compliqué. Quand on a affaire à des voyous notoires, même mineurs, ils ne vont pas accepter très facilement de pouvoir être sanctionnés. Ça va être quand même une charge de travail supplémentaire et ça va aussi pénaliser, je dis bien, surtout finalement, les mineurs qui se comportent bien.
De son côté, la mairie de Carpentras assure que ce couvre-feu n'est pas là pour stigmatiser les mineurs.
Reportage ici Vaucluse. La recrudescence des cas de rougeole en France est confirmée. 180 cas entre le 1er janvier et le 14 mars, deux fois plus que l'an dernier selon Santé publique France. Un groupe de cas, ce qu'on appelle un cluster, a été détecté ces derniers jours dans la Bièvre, dans le département de l'Isère. 12 cas entre le 12 et le 27 mars, notamment chez des élèves du lycée agricole de la Côte-Saint-André. Déception pour tous les pêcheurs à pied à la veille d'un week-end de grande marée sur la façade ouest avec des coefficients de marée jusqu'à 114 attendus. Le ramassage et la commercialisation des coquillages sont interdits dans de nombreux secteurs de la Vendée jusqu'au département du Finistère en raison de la prolifération d'une algue toxique. Elles sont nées aux États-Unis, évidemment, mais depuis 45 ans, depuis 1979, et la création de Starmania, elles ont conquis le public français. Les comédies musicales et leur histoire française, objet ce soir d'un documentaire inédit, diffusé sur France 3 à 21h05 et coécrit par notre ami et journaliste ici à France Inter, Julien Baldacchino. Bonjour Julien.
Bonjour.
Merci d'être là pour parler de ce documentaire. Pour partager aussi ce qui est pour vous une passion depuis de longues années. Avant d'en parler, je voudrais qu'on commence par ce documentaire. Pour quelle raison ça n'avait jamais été fait de retracer cette histoire française des comédies musicales ?
Parce qu'il y a énormément de choses à raconter, en fait. Cette histoire-là, on la voit souvent sous le prisme des tubes et des grands succès. Évidemment, dans le documentaire, on revient dessus. Mais c'est une histoire qui est faite de plein et de déliés. C'est-à-dire qu'il y a des grandes périodes de la comédie musicale, la fin des années 70, la fin des années 90... Et puis, entre ces périodes-là, il y a des périodes d'exploration où il y a des spectacles qui ont moins bien marché ou qui ont marché mais dont on se souvient moins. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de tracer une sorte d'arbre généalogique des comédies musicales et tout en évoquant des souvenirs et des chansons qui vont parler à tout le monde, de voir comment, en fait, on a une véritable histoire d'un genre qui se déroule sur presque 50 ans.
Donc, on va retrouver des tubes, mais on va retrouver des découvertes aussi ce soir et on va apprendre des choses.
Oui, et des redécouvertes, je pense, des choses qu'on a entendu à la radio, qu'on a vu à la télé, et puis on a retrouvé pas mal d'images d'archives, donc voilà, on va aussi redécouvrir pas mal de choses.
Comment est-ce que vous avez attrapé ce virus, Julien ?
Moi, c'est par un spectacle en particulier, mais d'abord les chansons, c'est Starmania, avec les chansons de Starmania que tout le monde connaît, et ensuite le fait de découvrir que c'est un spectacle, et ça tombait au bon moment parce que c'est la période où arrivent ensuite toutes les grandes comédies musicales. Johnny Rockford.
France Gall et Starmania, par exemple, pour vous, c'est un choc important ?
C'est un énorme choc de découvrir en fait toute l'histoire qui se déploie derrière les chansons. C'est ça, pour moi, dans la comédie musicale qui est le plus fort, c'est qu'on connaît les chansons, mais derrière, il y a une histoire, il y a une mise en scène, il y a de la danse, il y a du théâtre. C'est vraiment un art populaire au sens le plus noble du terme. Il y a presque tout dedans.
Il y a une spécificité française de la comédie musicale. Est-ce qu'il y a des choses qui marchent chez nous mais qui marcheront pas à New York par exemple et inversement ?
Il y a deux modèles très très différents. Le modèle américain et anglais à la Broadway comme on dit, c'est un modèle de théâtre musical. C'est-à-dire qu'on part d'une histoire, on a des artistes qui sont comédiens, chanteurs, danseurs et on colle vraiment à cette histoire et les chansons viennent le servir. Le modèle français, c'est l'inverse en fait.
On a d'abord les chansons ?
On a d'abord les chansons et ensuite on tisse une histoire autour de ces chansons-là. Ce qui n'empêche que depuis quelques années, il y a de la comédie, il y a de plus en plus de danse dans les spectacles musicaux, mais c'est vrai que à la base, Starmania par exemple ou Notre-Dame de Paris, ce ne sont que des chansons qui s'enchaînent, il n'y a pas de passage parlé et on part vraiment de ces chansons-là pour ensuite faire des grands spectacles aussi sur des très grands formats. On tourne dans les zéniths et pas dans les théâtres. Donc c'est des scènes très imposantes, c'est pas exactement le même modèle.
45 ans d'histoire, est-ce que ça marche toujours aussi bien aujourd'hui ? Est-ce que le public est toujours aussi accro à ces comédies musicales ?
Et de mieux en mieux même, puisque il y a eu une période un petit peu de creux au milieu des années 2010, et puis là depuis quelques années ça revient, d'abord parce qu'il y a un élargissement de ce qu'on peut voir, il y a maintenant des spectacles américains qui sont joués en France, il y a aussi des spectacles comme Le Roi Lion qui cartonne, et puis on a aussi une différence de modèle, c'est-à-dire que le modèle avant, on sortait un disque, on faisait beaucoup de promos, on faisait en fait monter l'attente pour le spectacle avant qu'il commence, ce qui fait que là par exemple on entend Le Roi Soleil, tout le monde connaissait les chansons avant que le spectacle commence. Aujourd'hui un spectacle comme Molière, également produit par Dov Attial, producteur du Roi Soleil, il commence, personne ne connaît les chansons, la salle est honnêtement à moitié vide, moi j'étais à la première, la salle était vraiment pas bien remplie, et c'est au fur et à mesure que le spectacle s'est rempli. Donc voilà, il faut trouver de nouvelles histoires à raconter ou alors faire des reprises, et ça se fait beaucoup aussi, les vieux spectacles qu'on remonte.
Donc le chemin est inverse, si je puis dire. Et on compte sur le bouche à oreille, on compte aussi un peu sur vous, Julien Baldacchino. Comédie musicale Made in France, le documentaire que vous avez coécrit avec Christophe David. C'est ce soir, 21h05 sur France 3. Je voudrais qu'on parle maintenant d'un des peintres majeurs du surréalisme, le catalan Joan Miró, une nouvelle expo lui est consacrée depuis hier chez lui à la Fondation Miró. C'est à Barcelone, une expo qui présente une véritable prouesse scientifique. Des rayons X ont permis de révéler un tableau caché du maître. Bonjour Lou Bourdi. Bourdi.
Bonjour.
Grâce à une radiographie, la Fondation a découvert sous la peinture d'un tableau de Miro un autre tableau, un portrait de sa mère.
Exactement, un portrait de sa mère, dans un style très classique, caché sous un petit tableau surréaliste bleu. Alors, on vous explique. Le tableau bleu, intitulé Peintura, est peint par Miro vers 1925. Il l'offre à un ami, puis la Fondation le récupère. Et c'est là qu'une première radiographie est faite, en 1978. Écoutez, Elisabeth Serra, conservatrice du musée, extrait d'un documentaire réalisé pour l'exposition.
C'est écrit ici et c'est le plus important. En 1978, l'état général de l'œuvre est assez mauvais. Une radiographie de 30 x 40 a été faite, comme le dit le rapport. La conclusion dit que c'est peut-être lié au fait que quelque chose se trouve en dessous.
Ouais, effectivement, l'an dernier, grâce aux nouvelles techniques, lumière ultraviolette et infrarouge, les chercheurs découvrent le portrait d'une femme sans savoir de qui il s'agit. Mais quelques semaines plus tard, Elisabeth Serra, la conservatrice, se rend dans un atelier du peintre au Baléares et elle tombe sur un portrait de femme exactement le même que celle du portrait caché. Et il s'agit en fait de Dolors Ferra Hieromi, la mère de Miro. Alors, pourquoi est-ce qu'il a peint par-dessus ? Eh bien, pour la Fondation, deux hypothèses. Soit pour une raison pratique, il avait besoin d'une toile, ça se faisait beaucoup. Soit pour un acte de rébellion, peindre par-dessus pour rompre avec le style académique.
Merci Lou Bourdi pour ces explications. Alors, ça n'est pas la Coupe du Monde de foot, mais c'est un peu leur Coupe du Monde à elle. Et il y a un petit côté le grand bain dans cette histoire. Des mamies, fans de football, originaires de Dordogne, vont disputer un tournoi international en Afrique du Sud. Elles décollent dimanche, elles sont originaires de Trémola. Et ce qui est remarquable, c'est que beaucoup d'entre elles ne maîtrisaient pas du tout ce jeu il y a quelques mois. Marie-Astrid Guégan, vous avez assisté à leur dernier entraînement.
Survêtement bleu et noir et sifflet autour du cou, Maryse, 65 ans, a tout l'attirail d'une sélectionneuse d'équipe de foot.
Donc moi je compte énormément sur toutes ces femmes-là qui vont se donner à fond en Afrique. Je vous demande ce soir spécialement du sérieux. Allez, c'est parti pour deux tours.
Après deux tours de terrain, Joël, 70 ans, l'une des plus vieilles, est déjà à bout de souffle à cause de son asthme. En plus de ses maillots de foot, elle a mis un bikini dans sa valise, mais...
On part pas en vacances, pas du tout, je vais me faire tuer si vous dites ça. Ah non, non, on part au boulot. C'est vraiment, on va jouer de façon intense.
Brigitte s'entraîne à dribbler. Ça ne fait que 5 mois qu'elle a rejoint l'équipe.
J'avais jamais touché un ballon. Donc je me suis entraînée beaucoup. Mon mari m'a entraînée à la maison aussi.
Et les progrès se voient. Claudia envoie le ballon en pleine lucarne.
Quand j'ai commencé, il y a un an et demi, j'en voyais pas les patates comme ça, hélas. Au bout d'un an et demi, ouais, ça fait plaisir de voir qu'on a un peu plus de force.
Elles veulent bien faire pour coach Maryse, qui, tant qu'à prendre l'avion pour la première fois, n'a pas prévu de faire le voyage pour rien.
Voilà, moi, mon but, ça serait une victoire. Pour qu'elle soit récompensée aussi, quoi. Sinon, on rentre à la maison.
Les reines du foot ont quand même l'intention de mettre l'ambiance. Elles ont déjà préparé les chants d'équipe.
C'est un vrai tournoi, hein. 24 équipes du monde entier réunies, il y a même une cérémonie d'ouverture. Reportage ici Périgord, 13h27. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à partir de 13h30, Emmanuelle Davier, la médiatrice des antennes de Radio France avec nous. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
De quoi parle-t-on aujourd'hui ?
Eh bien, nous serons avec Anne Souhaitemont, chef des informations de France Inter, et Anne-Laure Jumet, directrice adjointe de la rédaction internationale de Radio France, pour parler évidemment tout d'abord des réactions des auditeurs à la suite de l'annonce faite par Nicolas Demorand mercredi, et puis de la situation géopolitique internationale.
A tout de suite, 13h45, notre feuilleton, l'heure du verdict pour notre proposition de loi sur le handicap que nous suivons depuis le début de la semaine. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Jean-Baptiste René du journal L'Équipe et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Jean-Baptiste, des élus qui défendent des supporters de foot.
Mais oui, ça arrive. Et des élus de tous bords. Oui, ça se passe à Nantes où un groupe historique de supporters est menacé de dissolution par le ministre de l'Intérieur qui lui reproche des comportements violents. Les ultras sont à nouveau dans le viseur.
Et avec vous, Frédéric, une créatrice de mode.
Oui, nous irons à la rencontre de Fifi Chachenil qui fête cette année ses 40 ans de création avec deux grands défilés la semaine prochaine au Palais de Chaillot. Et avec elle, nous écouterons l'une des chansons de son film préféré, Les Demoiselles de Rochefort.
Ah oui, on va revenir un peu à l'esprit des comédies musicales. Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
on en parle.
Alors que les Français ne savent plus vers quelle motorisation se tourner, Volkswagen lance la gamme e-hybride. On en parle avec Antoine Gaston-Breton, directeur marketing France de Volkswagen. Bonjour.
Bonjour.
Alors c'est quoi l'e-hybride ?
Eh bien, c'est avant tout une nouvelle technologie qui vous permet de ne plus avoir à choisir entre thermique ou électrique.
Ah bon, c'est-à-dire ?
L'e-hybride de chez Volkswagen offre une autonomie en 100% électrique de plus de 140 km sur la Golf, par exemple. Au-delà des chiffres, vous profitez de l'électrique au quotidien. Économie, silence et plaisir de conduite. En plus, avec sa recharge rapide, vous passez de 10 à 80% en moins de 30 minutes.
Très bien, mais pour les longues distances ?
Eh bien, la motorisation essence associée est tellement efficace que l'autonomie cumulée est impressionnante et peut dépasser les 980 km sur une Passat, dont 130 en électrique. Finalement, vous avez deux véhicules en un pour répondre à tous vos besoins et le choix entre Golf, Tiguan et Passat qui en sont déjà équipés.
Antoine Gaston-Breton, merci.
On en parle. Donnez WLTP. En savoir plus sur Volkswagen.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Utopia. Camping, tentes et cabanes en pleine nature pour des séjours inoubliables. Par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est un temps plus perturbé aujourd'hui sur le nord-ouest.
Oui, on a des pluies qui sont arrivées par la Bretagne et qui glissent progressivement vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine, la région parisienne, les Hauts-de-France. De belles éclaircies vont en profiter pour revenir de la Bretagne à la Basse-Normandie. Du sud-ouest vers le massif central et le nord des Alpes, là on a un ciel changeant, alors pas mal de nuages, surtout au sud de la Garonne. Quelques averses, un petit peu de neige vers 1700 mètres sur les Alpes et les Pyrénées. Pour avoir un soleil plus généreux, direction le nord-est, avec seulement quelques passages nuageux dans l'après-midi. Midi. Du soleil aussi en Méditerranée, mais avec du vent assez fort. Des températures semblables à celles d'hier, hein, de saison ou un peu au-dessus. Alors 12 à 17 degrés le plus souvent, 17 à 21 près de la Méditerranée. Demain, on aura quelques degrés de moins, des températures à peine de saison, oui. Avec des pluies des Pyrénées aux régions de l'Est, de l'orage possible entre la Provence et la Corse. Ailleurs, de belles éclaircies, mais beaucoup de vent en Méditerranée. Dimanche, une perturbation va circuler sur les régions du Nord. Et puis après cela, pour la semaine prochaine, du soleil et des températures en hausse.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Comme chaque mois, notre rendez-vous avec la médiatrice des antennes de Radio France, Emmanuelle Davier. Nous recevons aujourd'hui Anne Souhaitemont, chef des informations de France Inter, et Anne-Laure Jumet, directrice adjointe de la rédaction internationale de Radio France. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Et on commence, Emmanuelle, avec le sujet qui a suscité de très nombreux messages cette semaine, la prise de parole avant-hier sur Inter de Nicolas Demorand.
Oui, je suis un malade mental, c'est cru, c'est violent à dire et peut-être à entendre, mais je ne veux plus le cacher, ni me cacher. Comme des centaines de milliers de Français, je suis bipolaire, bipolaire de type 2. J'alterne donc des phases d'euphorie et des périodes de dépression, mais je suis soigné. Et je suis là chaque matin, tendu vers un objectif, celui de travailler avec toute l'équipe pour vous informer, vous divertir et vous faire ressentir des émotions. Si je me suis tu si longtemps, c'est parce que la maladie mentale fait peur, parce que la maladie mentale reste une maladie honteuse. Et oui, j'avais honte.
Beaucoup de réactions d'auditeurs à la suite de cette annonce faite par Nicolas Demorand mercredi. Des mots de soutien et d'admiration en très grand nombre, comme celui-ci d'une auditrice. J'ai été très touchée par les propos de Monsieur Demorand. Un témoignage aussi sincère et courageux est remarquable. Bravo et merci pour cette chronique émouvante. Anne Souhaitemont, un auditeur souhaiterait en savoir un peu plus sur les coulisses du livre de Nicolas Demorand et les réactions que cela a suscité dans la rédaction.
Alors pour ce qui concerne le livre, c'est évidemment la démarche de Nicolas Demorand. Je ne me permettrai pas en revanche, évidemment, sur ce que ça a pu susciter dans la rédaction. Bah, je crois que ce qu'on vient de réentendre, ce mot « équipe » de Nicolas Demorand, bah, c'était réciproque. C'est-à-dire que toute l'équipe, toute la rédaction a été autant émue que la plupart des auditeurs qui ont entendu ce message mercredi matin. Donc Nicolas a eu beaucoup de messages de soutien. Il était assis juste là où vous êtes, Jérôme, évidemment. Alors je pense que ça s'explique parce que notre rédaction est très consciente de l'importance du sujet de la santé mentale.
On en parle,
voilà, exactement. Et d'ailleurs la journée spéciale qui était, je crois, le 25 septembre, eh bien ça, il en parle, hein, dans son 80 secondes. Je ne sais pas si ça a été un déclic, mais je pense qu'en tout cas cas, c'est peut-être à ce moment-là qu'il s'est dit qu'il y avait quelque chose qu'il devait dire parce que c'était important. Et donc, on a fait une journée spéciale. Et nous, on en parle très souvent dans les journaux. Donc, je pense que la rédaction, comme en fait la France, se rend compte que c'est un sujet absolument majeur. Et je pense que les mots qu'a prononcé Nicolas quand il dit « je veux maintenant en faire un combat de ce que j'ai longtemps caché », ben, on s'en est un petit peu saisi ici aussi. Et je peux vous annoncer que lundi, Nicolas Demorand sera dans le téléphone sonne aux côtés de Fabienne Sintès et il répondra aux questions de vous, les auditeurs, et il y aura un échange.
Voilà, donc il pourra y avoir un dialogue direct après cette annonce. Et on avait, nous, dans le 13-14, mesuré l'impact aussi auprès des professionnels de santé qui attendaient cette prise de parole et qui ont été très heureux aussi pour les malades et pour la prise de conscience qu'elle entraîne. On poursuit, Emmanuel, avec des messages reçus à la suite de l'intervention d'Emmanuel Macron. C'était début mars.
Les décisions politiques, les équipements militaires, les budgets sont une chose, mais ils ne remplaceront jamais la force d'âme d'une nation. Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix. Il ne tient qu'à nous que nos enfants récoltent demain les dividendes de nos engagements. Alors nous ferons face, ensemble.
Depuis l'intervention d'Emmanuel Macron, la situation géopolitique internationale, eh bien, cette situation génère beaucoup d'interrogations dans les messages des auditeurs qui considèrent que le discours dominant chez les journalistes et les invités est trop orienté vers la nécessité d'une escalade militaire et du renforcement des armées. Anne Souhaitement, que répondez-vous à ces remarques ?
Bah, je les comprends complètement et je pense que toute la rédaction les comprend. Pour être tout à fait honnête, Jérôme le sait et d'ailleurs Anne-Laure aussi. On en parle très souvent dans nos conférences de rédaction. Hein, c'est vraiment un débat qui traverse toutes nos discussions éditoriales. Ce que je voudrais dire aux auditeurs, c'est que nous, on ne juge pas ce qui est dit, les mots qui sont utilisés, on les met en perspective. On a par exemple rappelé qu'Emmanuel Macron avait déjà prononcé les mots de guerre pendant le Covid. Et nous, on accompagne, on décrypte, on décortique. Ça, on le fait beaucoup dans le 13h avec vous, Jérôme, la marche du monde. Donc nous, on a accompagné un événement diplomatique très important, cette rencontre dans le bureau ovale donc, qui s'est mal passée entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. On accompagne d'autres moments diplomatiques qui suivent, on accompagne des annonces. Donc en fait, on accompagne un petit peu des faits, parfois on les questionne. La notion de réarmement, on est allé dans des usines, on a fait des reportages, des usines françaises, un an après, parce qu'il y avait déjà eu cette question l'année dernière, qui ont augmenté leur cadence, ça on l'a raconté. Parfois on raconte aussi que ça ne va pas aussi vite que ce qui est souhaité ou ce qui avait été fixé comme objectif. Donc voilà, nous on est plutôt dans cet accompagnement. Après on essaie toujours de le faire avec parcimonie et avec une forme de recul.
Des auditeurs demandent une meilleure répartition du temps de parole entre les partisans d'un renforcement militaire et ceux qui militent pour d'autres formes de défense, y compris non violentes. Des auditeurs considèrent que les voix qui prônent des alternatives non militaires sont tout simplement marginalisés. Que vous inspire ce constat, Anne Souhaitement ?
Alors, ce que je pense, c'est qu'au début, effectivement, en fait, ces gens n'ont peut-être pas beaucoup parlé, parce qu'on était dans un moment de choc,
de sidération,
et qu'on a beaucoup entendu ceux qui commentaient ce moment de choc. Après, là, on voit que les choses sont en train... On avait d'ailleurs fait une journée spéciale, hein, nous, sur le nouveau désordre mondial, où on avait donné de la place aussi aux auditeurs, aux échanges, parce qu'on voulait qu'ils puissent poser des questions et entendre des gens qui discutaient, qui donnaient du sens à tout ce qui était en train de se passer. Après, par exemple, j'ai regardé cette semaine, on a diffusé un son en matinale de Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, qui est à la tête d'un gouvernement, qui gouverne un pays qui est plutôt plus pacifiste que le reste de l'Europe, et on donne à entendre cette voix. Et là, je vous le donne en avant-première, c'est comme le téléphone sonne de lundi.
Que d'annonce.
On a Bruno Duvic, qui est notre correspondant à Rome, qui nous prépare un reportage dans une dizaine de jours, pareil, sur cette Italie, où parce que grande tradition catholique, grande tradition communiste, eh ben, les voix pacifistes sont très très fortes, et ça, on le raconte maintenant. Il y a une question de timing, mais c'est aussi parce que c'était pas les mêmes. Les gens n'ont pas parlé au même moment, et là, je pense qu'ils commencent à s'exprimer.
Et alors, pour traiter journalistiquement une telle séquence géopolitique, quels sont les écueils à éviter? Quels sont vos points de vigilance à la rédaction?
Alors, les points de vigilance, en fait, ils sont là par les discussions qu'on a en conférence de rédaction, où on se dit toujours, attention dans notre équilibre, pas d'excès, pas surinterprété. Aller sur le terrain, c'est notre grande force hein, à Radio France, grâce à la rédaction internationale. On est très déployé un peu partout en Europe, donc nous, on a pu raconter ce qui se passait en Finlande, en Estonie, en Allemagne, c'est pas donné à tout le monde, donc on on essaie de faire attention. Après, on se dit aussi que nous, à France Inter, on a vraiment un ADN où on fait très attention aux questions de santé mentale, on en a parlé, d'environnement par exemple. Et là, tous les jours, on se pose la question dans le journal que vous venez d'entendre, on a fait un point sur la décarbonation qui va dans le bon sens, mais pas aussi vite que prévu. Voilà. Et ça, c'est vraiment des sujets qu'on s'efforce de toujours mettre en une parce que c'est important.
Il y a une personnalité qui est au cœur des sujets qu'on vient d'évoquer, c'est Donald Trump.
On l'a gagné. On va remettre notre pays sur les rails plus grand que jamais avant.
Beaucoup de gens demandent la destitution de ce juge. Je ne sais pas qui il est, mais c'est un gauchiste nommé par Obama.
And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland.
Si vous ne fabriquez pas en Amérique, sous l'administration Trump, vous serez taxé.
Vous n'êtes pas en position de force. Vous n'avez pas les cartes, là. Sans nous, vous n'avez pas les cartes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale.
Depuis le 20 janvier dernier, date de son investiture, Donald Trump fait l'agenda des rédactions à travers le monde. Pas un jour sans annonce, pas un jour sans propos fracassants, aussitôt repris dans tous les médias de la planète. Et les auditeurs s'interrogent comment les journalistes de la rédaction travaillent sous l'ère Trump face à ce flux constant de déclarations du président des États-Unis. Anne-Laure Jumet, je le rappelle, vous êtes directrice adjointe de la rédaction internationale de Radio France. Selon quels critères les journalistes décident que les actions où les déclarations de Donald Trump sont dignes d'être couvertes?
Eh bien, on regarde simplement est-ce qu'il y a des résonances, des conséquences sur le plan intérieur et sur le plan extérieur. Je vous cite quelques exemples. La suspension de l'USA, de l'aide au développement, qui a des conséquences majeures pour des ONG partout dans le monde. On en parle souvent dans nos journaux. La position de Trump sur l'Ukraine, on l'a entendu dans l'extrait, qui a effectivement un retentissement évidemment extrêmement important. Les annonces sur les droits de douane, on en a parlé encore hier, là, l'impact sur le secteur automobile, voilà des sujets qui méritent évidemment d'être traités. Mais c'est vrai que pour prendre par exemple le seul exemple des droits de douane, on voit que le président américain a pu changer d'avis en quelques heures. Ça s'est passé par exemple le 11 mars dernier. Donc il ne faut pas rebondir sur chaque déclaration. Il faut faire le tri face à un Donald Trump qui pratique la diplomatie de l'intimidation, qui crée par ses déclarations beaucoup d'incertitudes sur le plan géopolitique et économique. Et d'ailleurs pour nous, c'est un défi quotidien. On n'est pas à l'abri de commettre des erreurs d'appréciation. En tout cas, on est vigilant, on évite par exemple de réagir à chaud à un message qui serait posté par Trump sur son réseau social, et on évite de se laisser entraîner par le narratif de Trump et de son équipe. En fait, il a même été théorisé par son ancien conseiller Bannon, inonder les médias de fausses informations, d'infos peu importantes, pour éviter d'avoir à répondre à l'essentiel et potentiellement à des sujets plus embarrassants.
Anne Souhaitement.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec Anne-Laure. Dans les conférences de rédaction, tous les jours, on se pose la question de jusqu'où on va.
Est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas ?
Voilà, est-ce qu'on fait pas, c'est très important. Et on a aussi essayé de décrypter cette politique, parce qu'en fait, c'est une politique, c'est une marque de Donald Trump. On appelle ça un peu le carpet bombing. Comment est-ce qu'on réagit face à ça? Et on a aussi eu cette analyse-là de la politique intérieure américaine.
Emmanuel, vous avez aussi reçu des questions sur les oppositions que Donald Trump rencontre dans son propre pays.
Oui, cherchez-vous à faire entendre des voix dissidentes à l'administration Trump, demande des auditeurs. Dans l'un des messages, on peut lire « Comme beaucoup, je suis consterné par l'actualité aux USA. Mais que font les démocrates américains? Que disent-ils? Pourquoi on n'entend ni Clinton, ni Obama? Pourquoi faut-il attendre un sénateur français pour réveiller les consciences ?» Alors ce sénateur français évoqué par l'auditrice, c'est Claude Maluret. On l'écoute.
Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'Europe est à un tournant critique de son histoire. Le bouclier américain se dérobe, l'Ukraine risque d'être abandonnée, la Russie renforcée. Washington est devenue la cour de Néron, un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique.
Anne-Laure Jumet, que répondez-vous aux auditeurs qui souhaitent entendre davantage les oppositions que Trump rencontre dans son propre pays?
Alors d'abord, il est difficile de faire entendre cette parole car elle peine à émerger. Les démocrates sont minoritaires au Congrès, ils sont divisés, ils manquent de leaders charismatiques pour porter leur message. On a Bernie Sanders qui a 83 ans, cet ex-candidat de la Maison Blanche qui a lancé une tournée anti-Trump. Bon, il paraît un petit peu seul et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'un Claude Maluret est devenu un peu une star sur les plateaux télé américains. C'est-à-dire qu'on entendait assez peu de critiques et donc ce sénateur français tout d'un coup devient un petit peu une parole qu'on a envie d'entendre même outre-Atlantique. Alors à surveiller quand même, on a les suites de la fuite d'informations classées secret défense sur Signal qui ont un petit peu réveiller les démocrates. Et puis sur le terrain, la résistance à Trump commence à s'organiser. On l'a vu dans un Zoom signé Camille Manière le 12 mars dernier. Et du côté des électeurs républicains, on entend aussi dans certains sujets diffusés sur France Inter, un peu de scepticisme, un peu de déception. Donc on fait entendre cette parole. Mais je dois quand même dire que, bien sûr, on va au contact des partisans de Trump. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé d'ouvrir un bureau provisoire à Atlanta, en Géorgie, pour faire remonter d'autres voix que celles qu'on peut entendre à Washington ou à New York.
Et je précise qu'on avait ici même dans le 13-14 expliqué pourquoi Barack Obama, pourquoi Joe Biden, pourquoi Hillary Clinton ne réagissent pas aux propos de Donald Trump. C'était un sujet de Loïc Loury.
Loïc Loury,
me semble-t-il, c'était il y a une quinzaine de jours.
Donc à retrouver sur
vous
le site.
Vous pouvez le réécouter, évidemment, Emmanuel. On aborde à présent des questions de sémantique et de religion avec l'utilisation d'un mot qui a irrité nos auditeurs.
Oui, de nombreux auditeurs reprochent l'utilisation du terme conclave par les journalistes dans le contexte politique pour décrire les réunions liées à la réforme des retraites. Ils estiment que conclave est un terme spécifiquement lié à l'Église catholique, désignant l'Assemblée des cardinaux pour l'élection du pape. En l'utilisant dans un cadre politique, des auditeurs ressentent une influence religieuse sur la politique, ce qui semble aller à l'encontre des principes de la laïcité qui régissent la République française. Et des auditeurs appellent donc à un usage plus rigoureux et plus neutre du vocabulaire sur les antennes. Anne Souhaitement, que vous inspirent ces remarques ?
Je les entends parce que elles sont partagées par encore une fois toute une partie de la rédaction. On en a encore parlé hier, pour tout vous dire, dans la conférence de rédaction de 15h. Il y a certains présentateurs, certains journalistes qui considèrent qu'il ne faut pas utiliser le mot de conclave et d'autres qui considèrent qu'il faut l'utiliser. Pourquoi faudrait-il l'utiliser selon certains ? Parce qu'en fait, il a été utilisé pour la première fois par François Bayrou qui a un peu donné le tempo de la couverture de cet événement, de ces négociations sur les retraites. Donc c'est vrai que si on a commencé en expliquant qu'un conclave commençait à se réunir, c'est difficile de l'appeler ensuite conférence sur les retraites parce qu'en fait les auditeurs peuvent se perdre un petit peu dans le sujet. Est-ce qu'on a déjà parlé de ce sujet ou pas ? Moi ça me fait penser à un autre sujet, vous savez, c'était le Covid. L'Académie française disait qu'il fallait dire la Covid et en fait l'usage a dépassé l'Académie française. C'est un petit peu ce qui se passe sur la terminologie conclave.
Moi j'essaye de l'employer mais vraiment de manière mesurée, voilà, avec parcimonie. Merci Emmanuel Davier, comment les auditeurs peuvent-ils vous saisir ? Peuvent-ils vous écrire ?
Eh bien, en allant sur le site de la médiatrice de Radio France. D'ailleurs, j'invite les auditeurs qui nous écoutent actuellement à s'y rendre pour pouvoir lire les messages que l'on publie, notamment sur le conclave, notamment sur la situation géopolitique où je explique pourquoi informer sur cette situation n'est pas forcément y adhérer. Et donc, il y a beaucoup d'informations à retrouver sur le site de la médiatrice.
Merci Emmanuel Davier, médiatrice des antennes de Radio France. Je salue également Anne-Laure Jumet et Anne Souhaitement, 13h46 sur Inter. Notre feuilleton, nous suivons depuis le début de la semaine une proposition de loi. Comment deux députés, un de gauche, un de droite, tentent de faire voter un nouveau texte sur le handicap 20 ans après et ils sont soutenus par 200 parlementaires. Problème, l'ordre du jour de l'Assemblée est complètement saturé et puis les caisses sont vides. Il leur faut donc convaincre la ministre chargée des personnes handicapées de les soutenir.
Ça va
Antoine ?
Madame.
Bonjour, je suis Charlotte Parmentier-Lecoq, je suis la ministre des personnes en situation de handicap et la ministre de l'autonomie.
On a l'exemple de la proposition de loi sur le narcotrafic, mais au départ c'est un sénateur de gauche avec un sénateur de droite qui arrive à une proposition de loi à 50 articles soutenus par le gouvernement, inscrite à l'ordre du jour. J'ai l'humilité de croire que sur le handicap, on ne sera pas tous d'accord, mais qu'il y a des sujets sur lesquels on peut arriver à avoir un véhicule législatif assez large. C'est là où on a besoin effectivement du gouvernement et d'arriver à élargir toujours plus, quoi.
Je vous remercie beaucoup pour cette initiative. Et je saisis la balle au bon pour vous proposer qu'on se réunisse très prochainement avec les deux groupes d'études au Parlement, qu'on puisse partager avec eux votre proposition de se dire qu'on fait un travail de co-construction pour se donner toutes les chances d'apporter des réponses qui sont attendues. Il n'y a plus qu'à.
Madame la ministre, cette proposition de loi est partie d'une proposition très concrète, augmenter l'allocation adulte handicapé de 200 euros, de 1000 à 1200, pour qu'elle atteigne le niveau du seuil de pauvreté. Est-ce que ça, vous y êtes favorable, par exemple ?
Moi, aujourd'hui, je ne réponds pas à cette question-là, parce qu'entre ce qu'on veut et ce que l'on peut, il y a aussi un écart. Donc on doit discuter aussi avec les parlementaires.
Ça coûte trop cher ?
De ça. Évidemment, ce sont des moyens aujourd'hui qui ne sont pas identifiés.
Nous, là, lorsqu'on a fait notre proposition de loi avec
avec Antoine. On avait axé sur la question des ressources en premier lieu parce que ça nous semblait évidemment très important. Mais entre une proposition de loi dont on n'est pas certain qu'elle puisse réunir une majorité à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, et un travail partagé qui sera peut-être un peu moins ambitieux sur la question des ressources et des revenus, mais qui aura une issue probablement beaucoup plus certaine, ben, très clairement, entre les deux, notre cœur ne balance pas.
C'est possible ça au calendrier parlementaire, avant la fin de l'année, là, trouver une petite place pour un texte handicap ambitieux ?
Avant l'été, ça paraît quand même, parce que maintenant le temps passe assez vite. À l'automne, c'est possible, il faut ensuite définir le niveau de maturité qu'on pourra avoir, l'articuler avec les lois de finances, hein, parce que vous savez que c'est les lois de finances à l'automne.
Vous en avez parlé à François Bayrou de ça ?
Ah bah bien sûr.
Et alors, il en pense quoi ?
Il est tout à fait ouvert à ce que le sujet puisse être abordé d'une façon transpartisane.
Oui, donc on n'est pas au bout du chemin.
Bah, le travail législatif, c'est un travail long, et encore plus sur des questions comme ça, on ne change pas la loi tous les jours. La loi, et c'est normal d'ailleurs, elle ne se change pas en 5 minutes, elle demande beaucoup de maturation, elle demande beaucoup de concertation aussi.
Messieurs, pour terminer, vous avez envie de dire quoi à la ministre après ce rendez-vous alors ?
Moi je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité en 2025 parce que c'est les 20 ans de la loi Chirac et qu'il faut qu'on profite de cet élan-là collectif pour ne pas décevoir et surtout pour améliorer la situation de ces millions de personnes en situation de handicap.
La société a pris conscience que le handicap concerne en fait chacun d'entre nous. Qu'il soit présent dès la naissance, qu'il survienne à la suite d'une maladie, d'un accident, accident de l'existence ou accident du travail, le handicap fait partie de la vie.
Moi, j'ai envie de croire qu'on peut aussi faire les choses plus vite que ce que dit Madame Lamiche, qui est prudente, c'est tout à fait naturel, parce qu'elle préfère qu'on ait une bonne surprise plutôt que de décevoir. Et donc, c'est à nous de créer les conditions de la réussite de ce projet.
Voilà, c'est donc loin d'être gagné pour cette proposition de loi sur le handicap. Julien Nenny pour ce feuilleton que vous retrouvez sur franceinter.fr.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le vendredi à 13h50, la France du sport avec Jean-Baptiste René du journal L'Équipe. Jean-Baptiste, direction Nantes avec vous. Nantes où la menace d'une dissolution crée l'émoi dans la ville.
Oui, et commençons par dire que sur le sujet, la France insoumise et les Républicains parle d'une même voix pour dénoncer une mesure arbitraire et autoritaire. Vous voyez que ce n'est pas commun. On parle bien de foot, hein, pas de politique, même s'il peut y avoir dans ces discours des arrière-pensées électoralistes. Oui, on parle de foot, bien qu'il soit question ici d'une menace de dissolution. Elle est brandie par le ministre de l'Intérieur et elle concerne un groupe de supporters ultra du FC Nantes. Ce groupe d'ultra, c'est la Brigade Loire, qui doit son nom à la tribune qu'elle occupe au stade de la Beaujoire. Et voilà maintenant de longs mois qu'elle est dans le viseur des autorités. En cause notamment l'attitude de certains individus lors du match entre Nantes et Le Havre fin novembre dernier. Ce jour-là, la rencontre avait été interrompue deux fois pour jet de projectiles et une cinquantaine de personnes cagoulées étaient descendues au bord de la pelouse pour faire face au CRS. Ce fut l'élément déclencheur pour Bruno Retailleau, même si les récentes déclarations du ministre laissent penser que cette menace s'éloigne un peu. J'attends une réelle prise de conscience de la part des supporters qui devra se traduire par la baisse des tensions et des violences, a-t-il insisté. Un sursis bienvenu pour les supporters, mais aussi pour les joueurs qui craignaient de jouer dans un stade vide, mort, sans ambiance, disait-il.
Parce que le rôle joué par cette Brigade Loire est tellement important ?
En fait, comme dans beaucoup de stades en France, l'ambiance avec ou sans les groupes ultras n'est pas du tout la même, parce qu'ils encouragent leur équipe et mettent la pression sur l'adversaire d'un bout à l'autre de la rencontre, sans temps mort. On parle ici d'un groupe de 2 à 3 000 personnes qui a fêté en 2024 ses 25 ans d'existence et qui fait aujourd'hui partie de l'identité des Canaries, tout en s'opposant d'ailleurs clairement aux dirigeants du club. Depuis 2007 et l'arrivée de l'homme d'affaires Valdemar Quitta, qui a fait fortune dans les produits de chirurgie esthétique et la pénoplastie, la Brigade Loire se fait un devoir, je cite, « de s'opposer à tous ceux dont l'irresponsabilité, l'ambition personnelle et l'inconséquence mettent l'avenir du club en péril ». Mais dans ses actions, la Brigade Loire franchit parfois la ligne jaune. En 2021, elle avait organisé l'enterrement symbolique du FC Quitta avec un faux cercueil.
Au fond, la Brigade Loire symbolise-t-elle le rôle central et parfois problématique de certains groupes ultras ?
D'une certaine façon, oui. D'un côté, les groupes ultras se considèrent comme garants de l'identité des clubs et s'élèvent contre certaines évolutions du foot, en particulier l'arrivée des fonds d'investissement et la multipropriété, c'est-à-dire le fait que plusieurs clubs appartiennent au même actionnaire. De l'autre, ils peuvent être à l'origine de violences, de chants homophobes ou de banderoles injurieuses, comme ce fut le cas lors du récent PSG-OM où Adrien Rabiot, sa mère, mais aussi son père décédé, ont été ciblés par certains Parisiens. La Brigade Loire n'est d'ailleurs pas le seul groupe menacé de dissolution. À Saint-Étienne, les Magic Fans, et les Green Angels le sont aussi pour des raisons similaires. En fait, dans toutes les tribunes de France, les ultras connaissent le défi, vivre leur passion sans violence.
Merci Jean-Baptiste René du journal L'Équipe Nantes qui se déplace au Havre dimanche en Ligue 1. De C'est la France à C'est une chanson. Votre invité aujourd'hui, Frédéric Pommier, est une créatrice de mode. Il s'agit de Fifi Chachenil.
Créatrice de vêtements, de lingerie, de parfums. Elle fête cette année les 40 ans de l'ouverture de sa maison de couture parisienne et pour l'occasion, deux grands shows auront lieu au palais de Chaillot la semaine prochaine avec défilé, tour de chant et danseuse. Et c'est une chanson de Michel Legrand que Fifi Chachenil m'a parlé, une chanson tirée du film de Jacques Demy, Les Demoiselles de Rochefort.
Je ne sais pas exactement quand je l'ai découvert, mais ce qui m'a totalement bouleversée, c'est qu'enfant, moi j'étais complètement fan de toutes les comédies musicales avec Gene Kelly, mais ça c'était des films qui dataient des années 50, etc. Tout d'un coup, vous voyez Gene Kelly débarquer dans un film de Jacques Demy, c'est juste de l'émerveillement. En fait, c'est ça qui fait Jacques Demy. Il est dans une autre réalité. Moi, j'adore ça. Et alors, au coin d'une rue, pof, il y a Gene Kelly qui débarque. Alors ça, c'est réjouissant.
Et cette autre réalité, c'est aussi un autre regard porté sur notre monde.
Exactement, c'est ça.
Avec peut-être plus de poésie.
Plus de poésie, de recul, de joie, d'amour, d'amour pour les gens. Il a un regard très très doux, même s'il introduit quelquefois des personnages épouvantables. Mais c'est un regard aimant sur l'humanité.
Et vous, qu'est-ce que vous faites exactement ?
Donc c'est ça qui est magnifique.
Nous voyageons de ville en ville, nous représentons des motos, des bicyclettes et des bateaux, la route est notre domicile. Un jour ici, un jour ailleurs, nous vivons libres et sans attache, lutins farfelus et potaches, courant de bonheur en bonheur, préférant au pire le meilleur, la bonne humeur à la tristesse, les jolies filles ont les dronesses et le plaisir à la douleur. Nous voyageons de fille en fille, nous butinons de cœur en cœur, à tire d'aile dans chaque port, à cœur perdu dans chaque ville.
Cette chanson, Frédéric, c'est donc « Nous voyageons de ville en ville ».
Une chanson qu'interprète dans le film « Les forains » venus s'installer sur la place Colbert à Rochefort. Et c'est la chanson qui touche le plus Fifi Chachenil.
Moi je crois que j'ai été forain ou j'ai été au cirque dans une autre vie. Donc les forains, ceux qui ne savent pas de quoi est fait le lendemain, ceux qui n'ont aucune attache, ça m'attire. C'est ce voyage, c'est des tournées, c'est l'amour dans les champs de blé, du vent frais sur le visage. On rêve que de ça, non ?
Et c'est ça que vous entendez dans cette chanson ?
Oui, ouais. Les lendemains incertains, c'est pas les lendemains incertains qui font peur. C'est des lendemains incertains merveilleux. Voilà ce dont il parle. Et c'est ça que j'aime bien.
L'amour fou au milieu des blés et le vent frais sur le visage. Nous voyageons de ville en ville, nos lendemains sont incertains. Une blonde dans la main, c'est à nouveau la vie facile.
Est-ce que vous pensez que cet univers de Jacques Demy, univers très coloré, il a pu inspirer un peu vos créations ?
Totalement. Ah oui, sûrement.
Au revoir, monsieur.
Mademoiselle, oui. Votre combinaison dépasse.
Je sais.
Une phrase que j'adore, c'est « Mademoiselle, votre combinaison dépasse ». Et à cause de ça, tous mes ourlets, les doublures, il y a une petite dentelle à la place de l'ourlet.
Donc Jacques Demy a vraiment inspiré votre travail, par exemple dans ce détail-là qui concerne...
Complètement.
Les combinaisons.
Voilà. Les combinaisons ou les doublures,
de la robe sont finis d'une petite dentelle.
Ce qui signifie que si elle dépasse, c'est juste très joli.
Mais oui, absolument. Et c'est à cause de cette phrase, dans Les Demoiselles de Rochefort. C'est grâce à Jacques Denis.
Est-ce que cette chanson-là, il vous arrive de la fredonner ?
Tout le temps. C'est des airs dans la tête, non ? Qui sont imprimés, qui sont là, et qui ressortent comme ça. Un petit courant d'air, une chanson de printemps, un poème là qui passe, et vraiment un rayon de soleil. Donc c'est une chanson qui fait du bien.
Nous voyageons de ville en ville, du Val de Loire au bord du Rhin. On nous appelle les forains, la route est notre langue.
Nous voyageons de ville en ville, les demoiselles de Rochefort. C'était donc Frédéric, le choix de Fifi Chachenil.
Fifi Chachenil qui fêtera vendredi et samedi prochain au Palais de Chaillot à Paris ses 40 ans de création avec deux défilés et comme dans les films de Jacques Demy, de la danse et des chansons.
Merci Frédéric Pommier et à lundi. Le 13-14, c'est avant tout une équipe, qu'elle soit remerciée. À la technique cette semaine, Ludovic Asselot et Arnaud Caillé. La rédaction en chef assurée par Estelle Schmitt, Cécilia Arbona et Sébastien Sabiron, assisté de Stéphane Rousset, Carline Desrosiers, Nicolas Sabat et Sybille Bulou, notre chargée de programme Claire-Sophie Collet, sans oublier tous nos standardistes. Bonjour Mathieu Vidard.
Jérôme Cadet, bonjour.
Un grand nom de la voile et de l'art avec vous.
Absolument, grand peintre, Titouan Lamazou est notre invité au carré dans un instant.
On a hâte, à tout de suite.